Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Nutrasentis, le podcast dédié à la micronutrition, à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, épisode spécial, format plus court et sujet plus léger. Vous avez déjà entendu des règles, voire même des commandements concernant l'alimentation. Les fameux « il faut manger comme si », etc. On entend un peu de tout et difficile de faire la part des choses entre mythe et réalité. Je suis Michael Mansart, docteur en pharmacie et micronutritionniste. Installez-vous bien confortablement, nous allons ranger ces mythes au placard définitivement et dès maintenant. Au cours de cet épisode, vous aurez l'immense chance de répondre à deux questions. À vous de me dire pour chacune si c'est un mythe ou une réalité. Je vous donnerai la réponse au cours de l'épisode. Pour cette première question, parlons d'un aliment que beaucoup de monde affectionne, le chocolat. Alors, est-ce que le chocolat noir est plus calorique que le chocolat au lait? Vous avez quelques minutes pour y réfléchir, mais restez quand même attentifs jusque-là. L'hiver arrive bientôt, dans un mois et demi. Il fait plus froid, donc naturellement, il faut manger plus. Ça, c'est surtout l'excuse pour pouvoir manger de bonnes tartiflettes, raclettes et autres fondues savoyardes. C'était peut-être vrai à une autre époque. En effet, la diminution de la température extérieure nécessite à notre organisme de dépenser plus d'énergie, plus de calories, pour maintenir notre chaufferie à 37 degrés. Mais dans notre société actuelle, nous sommes que très peu confrontés au froid. Les logements sont chauffés, ainsi que les transports et le lieu de travail. Inutile de se donner des fausses excuses pour manger une tartiflette. Cela fait partie du plaisir des papilles. Juste, pas tous les jours, et avec une alimentation saine à côté. Par contre, en hiver, on fait le plein de vitamine D et de zinc, et pour ça, je vous renvoie à mon épisode précédent. Autre idée reçue, les fruits et les légumes surgelés contiennent moins de nutriments que les fruits et les légumes frais. Eh bien, je peux vous dire que c'est parfois même le contraire. Je dirais même qu'un légume surgelé peut contenir plus de vitamines, que ce soit la vitamine C, les folates ou les autres vitamines, qu'un légume frais qui a traîné pendant plusieurs jours sur un étal puis dans la cuisine. À partir de la cueillette, c'est un vrai compte à rebours qui se déclenche. Plus le temps s'écoule entre la cueillette et la consommation, plus ces fruits et légumes vont perdre en vitamines. Il n'y a pas ce problème pour les surgelés, car la surgélation est généralement réalisée immédiatement après la récolte. Les fruits et les légumes sont cueillis à maturité pour préserver au maximum leurs propriétés. Bon, la petite nuance est qu'on perd quand même un peu au niveau de la texture. Manger une carotte fraîche et une carotte surgelée, vous connaissez tous, vous voyez la différence. De façon générale, favoriser les fruits et les légumes de saison et en circuit court pour garder le maximum de vitamines et minéraux. Mais si jamais vous manquez de temps, ayez toujours des fruits et légumes surgelés à disposition. Concernant les poissons, ce n'est pas la même histoire. Il vaut mieux privilégier les poissons frais ou les conserves, car la surgélation au-delà de 6 mois leur font perdre les fameux et précieux oméga-3. L'orange est la reine de la vitamine C. Ça, j'en suis sûr que vous l'avez déjà entendu. Alors oui, l'orange contient de la vitamine C, et en bonne quantité, c'est un fait. Mais c'est loin d'être la reine dans sa catégorie. La goyave et la papaye, pour les chanceux, se retrouvent en tête. Sinon, on retrouve le poivron, surtout le rouge, le cassis, le kiwi, le chou de Bruxelles, la fraise et le brocoli. Tous ces fruits et légumes sont plus riches en vitamine C que l'orange. Continuons sur la vitamine C. Donc non, la vitamine C n'empêche pas de dormir. Cette idée reçue est tenace. Qui a déjà mal dormi à cause d'un repas riche en poivrons et en choux de Bruxelles? Mauvais exemple. Bon, en tout cas, le problème ne vient pas de la vitamine C, croyez-moi. Peut-être ça peut venir de la digestion. Alors, vous avez eu le temps de réfléchir à la question sur le chocolat. Est-ce que le chocolat noir est plus calorique que le chocolat au lait? Eh bien, c'est une réalité. Plus un chocolat est riche en cacao, plus il est gras. Donc, du chocolat noir à 70% de cacao sera forcément plus gras que du chocolat au lait à 25% de cacao. Pour 20 g de chocolat, soit 2 carrés, l'apport en acides gras saturés reste raisonnable si l'on s'en tient à 2 carrés. Pas de tablette, attention, hein. Du côté des glucides, et surtout des sucres simples, la différence est flagrante. 20 g de chocolat noir n'apporte même pas l'équivalent d'un morceau de sucre de 5 g. Par contre, le chocolat au lait, lui, apporte plus de 2 morceaux de sucre. Pour faire simple, entre les deux chocolats, on a l'équivalent d'un morceau de sucre de 5 g. Cela peut paraître dérisoire, mais répété tous les jours durant une année, cela représente tout de même plus de 1,8 kg de sucre simple. Derniers avantages du chocolat noir, c'est qu'il apporte 2,5 g de fibres pour 2 carrés. Quasiment rien pour le chocolat au lait. Et côté minéraux, c'est de nouveau le chocolat noir qui sort vainqueur, grâce à l'apport de magnésium et de potassium. Certes, modeste, mais c'est toujours ça de prix. Donc, le chocolat noir, même s'il est plus calorique et plus gras, peut être consommé quotidiennement. Et on réserve le chocolat au lait pour les moments de plaisir. Mais dans tous les cas, appréciez ce moment de dégustation. Alors, voici ma deuxième question. Est-ce que l'huile de colza est la moins calorique des huiles? Réponse en fin d'émission. Vous avez tous entendu un jour ou l'autre que manger des œufs tous les jours n'est pas bon pour le cholestérol. Ça le fera monter. Voilà encore une idée reçue. Alors oui, le jaune d'œuf contient du cholestérol. Mais rappelez-vous, dans mon premier épisode, l'apport alimentaire du cholestérol ne représente que 30%. Et en plus de ça, dans une alimentation équilibrée et riche en fibres, nous diminuons l'absorption du cholestérol contenu dans les œufs. Si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez manger jusqu'à 2 œufs tous les jours. Les œufs sont riches en protéines de haute qualité nutritionnelle, en bons acides gras insaturés et en vitamines du groupe B. En plus de ça, les œufs nous apportent la lutéine et la zéaxanthine pour une bonne vision. Et il y a bien sûr des minéraux. Et je le rappelle, privilégiez les œufs de la filière bleu-blanc-cœur pour leurs apports en oméga 3. Et si je vous dis, on ne mange jamais trop de vitamines? C'est en partie vrai. Mais attention au foie de morue. Pas l'huile, mais bien le foie que l'on peut retrouver en conserve. Le foie de morue apporte une quantité phénoménale de vitamine A. 100 g de foie de morue apporte plus de 6 fois les apports recommandés journaliers en vitamine A. Alors, on le consomme occasionnellement, car il apporte aussi des oméga 3 et de la vitamine D, et je le déconseille chez la femme enceinte ou en désir de grossesse. Attention, l'excès de vitamines ne vient pas uniquement de l'alimentation. Il provient aussi des compléments alimentaires, et là je mets en garde par rapport à la vitamine B6. On la retrouve quasiment dans tous les compléments alimentaires. Un peu par-ci, un peu par-là, et au final, ça commence à faire beaucoup. Et une hypervitaminose, c'est-à-dire un excès de vitamines, ici la vitamine B6, peuvent provoquer des troubles neurologiques. Donc, regardez bien les étiquettes et en cas de doute, demandez conseil à un professionnel de santé. Le lait est la première source de calcium. Eh oui, c'est un mythe. Là encore, comme pour la vitamine C, c'est juste en partie vrai. Le lait apporte du calcium à hauteur de 125 mg pour 100 g. L'emmental, le gruyère et le parmesan sont en tête du classement, avec 1000 mg de calcium pour 100 g. Les sardines, eh oui, encore elles, en plus des oméga 3, elles sont riches en calcium, 400 mg pour 100 g. Et les amandes, alors là, vous avez le combo magnésium et calcium avec 250 mg pour 100 g. Enfin, en vrac, je vais vous citer les légumineuses, les épinards et les eaux minérales comme l'épars ou la contrex. Tout ça contient plus de calcium que le lait. Revenons maintenant sur la deuxième question que je vous ai posée. Alors, est-ce que l'huile de colza est la moins calorique des huiles ? Eh ben non, toutes les huiles sont ex aequo. À peu près 800 kcal pour 100 grammes. Rien n'est plus gras. Ici, 100% de lipides. Ce qui change entre toutes ces huiles, c'est la répartition des acides gras saturés, monoinsaturés, ce sont les oméga 9, et les polyinsaturés, les oméga 3 et les oméga 6. Alors, pourquoi privilégier l'huile de colza ? Tout simplement, car cette huile possède un bon rapport entre les oméga 3, qui sont anti-inflammatoires, et les oméga 6, qui sont pro-inflammatoires pour la grande majorité. L'huile d'olive obtient la seconde place sur le podium. Dernière remarque, l'huile de caméline, de lin ou de noix sont très riches en oméga 3, plus que l'huile de colza, mais elles se conservent très mal et sont relativement chères. Au niveau rapport qualité-prix, la palme revient pas à l'huile de palme, mais à l'huile de colza. À travers ce jeu de mythe ou réalité, retenez que le plaisir de manger est important et surtout nécessaire dans le cadre d'une alimentation équilibrée. On peut se faire plaisir dans l'alimentation. Nous voici à la fin de cet épisode et je vous dis merci pour votre écoute. Abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochains épisodes. Si vous avez apprécié, mettez-moi 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify et laissez-moi un commentaire ou une idée de sujet. Et pour poursuivre notre conversation et retrouver plus d'informations, rejoignez-moi sur Instagram @nutrasentis. Allez, je vous dis à dans 15 jours.